Generation Generation.
France Inter, le 18-20.
Maintenant que le paysage s'éclaircit, on peut compter ceux qui comptent, si vous me passez l'expression, dans la primaire démocrate, l'homme ou la femme qui affrontera Donald Trump, ou la femme, parce qu'Elizabeth Warren est en train de grimper doucement. Est-ce que c'est solide? Y a-t-il un effet Warren qui monte aux États-Unis? On y revient très vite. Le bruit du monde est joli ce soir, c'est celui de Myriam Makeba pendant ses périodes Guinée-Conakry. Amélie Perrier, elle, nous emmène notamment en Indonésie ou en Russie prendre des nouvelles de l'acteur Pavel Ustinov. À 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Vous verrez que les Belges regardent nos actions contre les féminicides avec beaucoup d'intérêt. Angélique Boin nous parlera aussi des pompiers européens. 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four qui veut parler de Coupe du Monde de rugby. Enfin, rugby oui, mais monde, c'est beaucoup moins sûr. Le monde, lui, est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, juriste, professeur émérite à Paris-Ouest Nanterre. Vous avez écrit « La Cour suprême des États-Unis », c'était chez Dalloz en 2015. Je le disais, le paysage est en train de se resserrer et allons-y directement. Y a-t-il en effet Elizabeth Warren ou pas?
Alors c'est extrêmement intéressant parce que elle est très très convaincante, très très convaincue, mais elle avait été détruite par Trump quand il l'avait qualifiée de Pocahontas.
Très très mal démarré en effet.
Exactement, ouais. Mais c'était un petit peu stupide de sa part d'aller chercher son 1/1000 d'ascendance indienne. Donc elle a été détruite à un moment, là maintenant elle a compris, et ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est complètement désinhibée, décomplexée, elle n'a pas les petits tailleurs un peu crispés d'Hillary Clinton, elle est là en chemisier, presque en t-shirt, en cardigan, et elle harangue des foules, et elle réussit très très bien. Et elle réussit bien parce que, à l'étape des primaires, ce qu'il faut, c'est mobiliser la gauche du parti.
Bien sûr.
Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'elle mobilise trop à gauche et est-ce qu'ensuite, elle est en train de faire peur aux modérés dont elle aurait besoin conditionnel pour l'élection générale?
Alors, on va y venir parce qu'on va voir effectivement ce qu'elle dit. Vous l'avez souligné d'abord, elle avait très mal commencé. Qu'est-ce qui fait, cela dit, qu'elle se redresse? En creux dans ma question, c'est est-ce qu'il y a une vraie équipe derrière Elizabeth Warren, une vraie équipe présidentielle qui peut la porter jusqu'en haut?
Oui, complètement. Elle a une très très bonne équipe, elle est présente dans les États, elle collecte de l'argent, donc elle est bien partie. À la limite, je pense que l'énorme claque qu'elle a subie au début lui a permis de comprendre que c'était pas un jeu pour les mauviettes. Mmh. Et autant je pense que si Biden, et pour moi ce serait une catastrophe, était le candidat investi, il éclaterait en vol dès la première minute du débat, elle a appris à se défendre maintenant. Elle serait sans doute capable de résister, et ça c'est assez sympathique. Elle est victime du mot habituel lorsqu'il y a une femme candidate, ça avait été le cas pour Hillary Clinton, du fameux mot anglais « electability ». Et Biden s'en prévaut, en fait c'est sa seule qualité, parce qu'il n'est pas bon dans les débats, il n'a pas de programme, il a un passé très très lourd, mais il dit « je suis celui qui a le plus de chances d'être élu et de battre Trump ». Mais pour battre Trump, il faut être capable de résister aux attaques ad hominem qu'il va y avoir ensuite. Parce que pour le moment, il dit pas trop de choses méchantes, il dit bon, il est un peu vieux, mais c'est tout. Mais quand Trump va se mettre à trouver des mots bien castrateurs, bien terribles, comme ceux qu'il a trouvés pour ses opposants à la primaire républicaine, bah, le malheureux Biden ne fera pas le poids.
Mais alors, pour l'instant, cela dit, on va revenir à Elizabeth Warren, mais cette campagne de Joe Biden, le dernier débat, il a été beaucoup souligné dans la presse américaine qu'il avait dit beaucoup de bêtises, qu'il s'est beaucoup emmêlé les pinceaux ici et là. Est-ce qu'il est trop vieux, Joe Biden? Pardon de le dire comme ça, mais est-ce qu'il est trop vieux désormais?
On va oublier la question de l'âge. Pas uniquement parce que ce n'est pas très politiquement correct. Biden a déjà été candidat 2 fois à la présidentielle. Il a eu 1% des suffrages. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas bon. Il a sans doute des tas de qualités. Il a été un relativement bon vice-président de Barack Obama. Mais en tant que candidat, et je pense président aussi s'il était élu, il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les idées claires. Et puis là, il veut plaire à tout le monde. Donc en fait, il n'ose pas trancher. Donc il dit un petit peu quelque chose. Et dans le détour de la même phrase, il va dire tout et son contraire. C'est ce qu'un des candidats a souligné. Mais il est intéressant de savoir, les gens ont quand même hué le candidat. C'est-à-dire que quelque part, ils n'ont pas envie qu'on abîme cette personne qui, selon les sondages, mais il faut ensuite entrer dans les catégories
pour l'instant, il est toujours très haut. Hein. Il est toujours bien en haut d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders, on va revenir sur lui.
Et en particulier, si on est dans les catégories personnes âgées, ça évidemment, noires et col bleu. C'est vrai que Warren a un déficit chez les cols bleus.
Or, c'est là qu'on la gagne, cette élection.
Voilà, et il faut quelque part être capable d'attirer les cols bleus. Et c'est vrai que c'est ça, c'est le paradoxe des États-Unis. C'est-à-dire que l'école bleue, théoriquement, devrait comprendre qu'il faut un État un peu régulateur et qui redistribue. Mais ils sont tellement dans l'idéologie, dans la propagande conservatrice d'un État qui va confisquer votre argent, que tout ce qui est en termes de proposition de régulation leur fait peur et les repousse chez les républicains.
Et précisément, c'est là-dessus et dans tous ces États du Midwest qu'il faut aller chercher les électeurs. Au moment des élections à mi-mandat, lorsque les démocrates ont repris la main, notamment sur la Chambre, c'est pas sur des arguments à gauche qu'ils ont regagné ces États-là, c'est typiquement sur des arguments qu'on qualifierait, nous, d'arguments très à droite, alors qu'ils étaient portés sur les démocrates. C'est pas une très bonne nouvelle pour Elizabeth Warren, ça, quand même.
Alors, c'était des arguments centristes, mais en fait, les élections de 2018 ont été gagnées un peu par les classes populaires, mais beaucoup par ce qu'on appelle les gens des banlieues. Les banlieues, c'est chic aux États-Unis, ce ne sont pas nos banlieues à nous. Et en particulier les femmes qui habitent les banlieues, qui trouvent que Trump, vraiment, c'est trop, etc. Et qui sont quand même sensibilisées à cet aspect de mettre un petit peu de justice dans la société. Et puis, il y a quand même un élément qui va jouer là, peut-être en faveur de Warren et des autres, c'est le fait que les mères en ont assez d'avoir peur quand leurs enfants sont à l'école. Donc cette histoire des républicains qui font un blocage de l'obstruction, qui ne veulent absolument pas réglementer le port d'armes.
Ce fameux spot de pub dont on a parlé ce matin sur France Inter.
Donc ça peut faire basculer une partie des mères. Mais il reste l'école bleue. Et puis il y a tous les gens qui sont très très en colère, les gens qui ont voté Trump, parce que Warren, elle fait partie de ceux qui font deux choses qui, à mon avis, sont pas très très bonnes si on veut rassembler large. Elle a dit qu'il fallait dépénaliser ceux qui rentrent aux États-Unis en violation de la loi. Bon, c'est peut-être une
des
politique
illégaux, donc
saine. C'est sans doute pas un bon élément électoral. Et puis l'autre chose,
Medicare for All, c'est ça que vous cherchiez?
Oui, alors
la couverture sociale.
Voilà, il y a Medicare for All. Et ah oui, en plus, voilà, elle fait partie de ceux qui veulent mettre en accusation le juge Kavanaugh. Bon, alors, si les démocrates étaient un tout petit peu intelligents, ils se rappelleraient qu'ils ont perdu le Sénat en 2018, enfin ils n'ont pas réussi à refaire basculer le Sénat, parce que Trump a réussi à galvaniser la droite en disant « Vous voyez comme ces démocrates sont méchants avec mon petit candidat Kavanaugh ». Et là, ils sont en train de refaire la même chose. Donc là, en termes de politique, on n'est même pas dans l'électabilité, on est dans une politique intelligente, en stratégie politique, c'est sans doute pas une très très bonne... Bon, cela étant, rien n'est vraiment dans le marbre. On est au tout début, c'était le premier débat où ils sont 10.
C'est le mot qu'on puisse dire, c'est pas dans le marbre. Deux choses, avant de revenir sur ce que vous avez un peu évoqué, sur ce qu'il y a dans le programme d'Elizabeth Warren et donc de cette gauche américaine-là. Pour finir sur Biden, est-ce que, au fond, il vit simplement sur le fait qu'il était le vice-président de Barack Obama, donc les gens voient en lui une espèce de Barack Obama bis en moins classieux, on va dire. Est-ce que c'est ça qui lui donne pour l'instant ces gros pourcentages ou pas ?
Tout à fait, et cette fameuse electability. Mais des sondages montrent que quand on demande qu'on pose la question à des personnes qui ont dit « oui, je le choisis parce qu'il est plus... en capacité d'être élu », on leur dit « mais vous mettez quoi derrière ce mot ?» Alors ils ne savent pas, est-ce que c'est l'idéologie ? Ah non, pas vraiment. Et en fait, on voit bien qu'électability, c'est aussi un argument très très sexiste, qui dit qu'en fait, pour être élu, vaut mieux être blanc et vaut mieux être homme. Et donc c'est comme ça que finalement, les femmes sont petit à petit exclues. Sauf Elizabeth Warren pour le moment.
Elizabeth Warren qui est en train de dépasser Sanders, est-ce qu'il est en train de passer la main ou de s'effondrer, au fond ?
Bon, moi, dès le début, je pensais que c'était fini l'époque de Sanders. Sanders, il a un mérite considérable. Il a attiré en 2007 l'attention sur des vrais problèmes dont personne ne parlait, ni les démocrates, ni les républicains. Cette oligarchie, cette plutocratie, le rôle de l'argent, le financement des élections, parce que c'est tout ça qui fait qu'ensuite les politiques qui sont adoptées sont très à droite. Parce que ceux qui déterminent les politiques sont ceux qui font élire ces gens qui vont ensuite mettre en œuvre les politiques. Donc là, il a joué un rôle. Mais il n'est pas très bon parce qu'il est monothème, c'est-à-dire il répète toujours la même chose. Et à la différence de Warren, lui ne fait pas des propositions. Elle est extrêmement structurée, elle a des propositions extrêmement précises.
J'ai
et
un
surtout,
plan pour tout. Sa phrase magique, c'est « j'ai un plan pour tout ».
Et elle est pédagogue, c'est-à-dire elle réussit à expliquer en termes assez simples des choses très très compliquées. Or, quand on va se trouver à l'élection générale contre Trump, dès lors que quelque chose va être difficile à expliquer, lui, Trump, va dire quelque chose de totalement faux en une ligne, en un tweet, et ça va totalement déformer les propos de l'autre candidat. Donc il est important d'avoir quelqu'un qui est très très forte dans sa tête. C'est quelqu'un de très bien intellectuellement, Warren, et c'est important.
Et elle est compétente sur notamment tous les volets financiers, parce que c'est pour ça qu'elle a été chargée de ça par Barack Obama dès le début. Son talent d'Achille, c'est quoi ?
elle est une femme. Je pense qu'elle n'a pas tellement de talons d'Achille parce qu'elle n'a pas un grand passé politique. Donc, une autre chose qui pourrait jouer contre Biden, c'est qu'on peut ressortir des morceaux de discours en montrant qu'il est la pire des personnes, qu'il est raciste, qu'il est ceci, qu'il est cela. 45 ans de carrière, il est sûr qu'il y a beaucoup à piocher. Warren, elle est relativement novice. Alors, la seule chose que peut dire Trump, il le dit déjà, c'est que c'est une socialiste. Et donc, ils veulent confisquer, ils veulent mettre fin à la liberté, ils veulent confisquer. Alors, elle n'est pas tellement pour reprendre les fameuses armes, là, AK-15, 47, etc. Mais ça peut être instrumentalisé. Elle a peu de points faibles, et surtout, moi, je trouve qu'elle est vraiment très, très bonne intellectuellement. C'est quand même quelqu'un, c'est une professeure d'université, c'est elle qui a tout créé, à partir de rien, cette agence de protection des consommateurs en matière de finance et de bourse, agence que l'administration Trump est en train de torpiller en la privant de crédit. Donc, elle est très solide, et ce que j'espère, mais c'est mon côté de temps en temps un peu idéaliste, c'est qu'au fur et à mesure, non seulement certains des démocrates, mais peut-être même ces fameuses femmes dans les banlieues, peut-être même un certain nombre de cols bleus, on se rend compte que bah, peut-être elle n'a pas tort.
Où est-ce qu'elle en est avec les minorités, par exemple? Alors, l'école bleue, on en a parlé, mais effectivement, les Noirs, ça compte. Les Hispaniques, ça compte presque encore plus en termes de chiffres.
Oui, la martingale, c'est qu'il faut à la fois regagner l'école bleue qui ont été perdues en 2016 et ne pas perdre et regagner la totalité des minorités, parce que Hillary Clinton, elle avait plusieurs millions de moins de Noirs et d'Hispaniques par rapport aux chiffres d'Obama en 2008. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué.
Dans le programme d'Elizabeth Warren, il y a l'interdiction du lobbying privé pour les anciens élus, c'est quelque chose qu'on avait déjà entendu. Il y a un impôt sur la fortune.
Oui.
Il y a une déclaration de patrimoine obligatoire, notamment pour les élus. Est-ce qu'elle est quand même, entre Sanders et elle, qui est le plus à gauche au fond? Est-ce qu'elle a son petit côté centriste par rapport à Sanders, qui est moins effrayant pour un certain nombre d'électeurs? Ou pas, parce que c'est quand même beaucoup de chiffons rouges pour beaucoup, y compris de démocrates américains, tout ça.
Alors, Sanders, il se contente d'attaquer, mais il ne propose pas grand-chose. Il met en lumière des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements réels et très importants. Warren, elle essaie de trouver des solutions. À partir du moment où on trouve des solutions, bien sûr, ça peut être critiqué, mais on peut montrer ce qui va être amélioré grâce à ce qu'elle propose.
Certes, mais aux yeux des Américains, et y compris des démocrates américains, quand on envisage un Medicare pour tous, c'est-à-dire une couverture de santé pour tous, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à passer. Obama s'en souvient très bien dès 2008, y compris dans son propre camp. Est-ce que vraiment les démocrates américains ont changé de ce point de vue-là? Ou est-ce que vraiment le risque, c'est de se prendre un mur, là?
Ah, mais de toute façon, les chances que Trump soit réélu sont absolument gigantesques.
Ah oui.
Parce que le Medicare pour tous, c'est presque impossible à expliquer. Dans un monde idéal, on peut expliquer qu'effectivement, les gens seront mieux couverts, ils auront moins de primes à payer, moins de parties à payer. Mais c'est impossible à expliquer en deux secondes. Et Trump, en une demi-phrase, il peut dire « il vous confisque votre assurance, il vous confisque votre choix ». Et c'est la même chose pour les fusils, c'est la même chose pour la frontière. Et donc, l'un des problèmes des démocrates, c'est que en essayant d'avoir des politiques, le gros avantage quand même qu'ils aient été 23, c'est que ça a permis à chacun de porter un morceau de programme. L'un s'est battu sur les armes à feu, l'autre sur la frontière, le troisième, etc. Et donc, pour ceux qui ont prêté attention, il y a tout un tas de champs qui ont été un petit peu creusé en profondeur.
Et alors, je parle des démocrates américains, se sont entichés de Beto O'Rourke d'abord, c'était au moment des élections à mi-mandat, et puis se sont entichés de Pete Buttigieg parce que il y avait quelque chose d'extrêmement neuf et d'extrêmement jeune dans cette campagne. Donc désormais, c'est Elizabeth Warren. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas dans une espèce de cycle,
alors,
en fait,
Pete,
parce que encore une fois,
Pete Buttigieg, le miracle, c'est que ce garçon qui était maire, tout d'un coup, on a parlé de lui, et il est très très bon pour collecter les fonds. Et je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais il est extrêmement bon parce qu'il est centriste.
Mais il décolle pas.
Il est posé, je suis d'accord. Il répond aux questions, il n'esquive pas comme Biden et beaucoup d'autres. Il répond. Quand on lui pose une question difficile, par exemple, si on lui demande si Biden est un peu vieux, il dit « c'est pas à moi de décider, c'est à l'électeur ». Mais ensuite, dans le reste de la phrase, il dit des éléments qui sont importants. Si on rêve, un ticket extrêmement intéressant, ce serait Warren Buttigieg. Parce que Buttigieg, lui, il serait très très bon en politique étrangère, parce que lui, il a combattu en Afghanistan, il sait ce que c'est la guerre, il sait ce que c'est d'être blessé, il sait c'est tous ces problèmes de guerre, alors que Trump, qui a esquivé le service militaire, n'a pas la moindre idée ce que c'est que d'envoyer des soldats au front.
En un mot, Desi, il vient d'où l'argent d'Elizabeth Warren? Est-ce qu'on est justement, on disait qu'elle avait surpassé Sanders, qui lui, il va à coup de 27 dollars, et qui finissent par faire une somme. Est-ce qu'elle aussi, c'est là que vient l'argent? Est-ce qu'elle a refusé l'argent des grandes corporations? Est-ce qu'on en est là aussi?
Oui, tout à fait. Elle est quand même très en tête pour se battre aussi contre les Google et compagnie. Donc, elle pourrait être copine avec notre commissaire européen et peut-être qu'on aboutira à une régulation. Non, il se passe des choses intéressantes. On est très, très en avance. Tout ce qu'on dit là peut être détruit du jour au lendemain.
C'est pour ça que je vous disais qu'on s'était entiché des autres avant. En ce moment, l'Amérique s'entiche d'Elizabeth Warren. Ce sera qui la suivante?
Oui, sauf qu'elle est quand même en train de monter et elle a des chiffres non négligeables, même dans les catégories où elle est mal placée.
Et maintenant, on en est à un débat par mois jusqu'à ce que les choses se resserrent jusqu'aux fameuses premières primaires de l'Iowa au mois de février. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Le 18-20, la suite dans la prochaine demi-heure, sur les traces de Myriam Makeba. Pendant ses années d'exil, ses 16 ans en Guinée-Conakry, et Amélie Perrier, vous nous emmenez-vous notamment au Maroc?
Au Maroc, où un chanteur très populaire peut dire que frapper sa femme, c'est normal pour un homme. L'émission a fait rire et a été suspendue quand même aussi.
Allez, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Boin avec une directive qui a failli intégrer tous nos pompiers volontaires au fond, Angélique.
Oh oui, c'est un peu raccourci, mais c'est ça. On va parler des pompiers volontaires en Europe. On en parlait cet après-midi dans l'hémicycle à Strasbourg.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers de Jean-Marc Four avant la Coupe du monde de rugby, Jean-Marc.
Mais oui, Coupe du monde de rugby. Il y a un mot qui colle pas, j'entremêlé. C'est le mot monde.
Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Cameroun, figurez-vous. Blik Bassi, Kat.
Thank you.
Le bruit du monde, ce soir, nous envoie des notes, vous allez l'entendre dans un instant, des notes à une voix depuis la Guinée-Conakry. Nous sommes à Dalaba, très exactement, dans la région tempérée du Fouta de Djallon. C'est à 250 km au nord de Conakry, donc la capitale. C'est ici qu'a résidé, à partir de 1969, la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. On l'appelait Mama Africa, elle avait trouvé refuge ici à l'époque de Sékou Touré, l'ancien président guinéen. Elle avait été chassée, si vous vous en souvenez, d'Afrique du Sud, des États-Unis aussi d'ailleurs, parce que on lui reprochait d'être trop proche des Black Panthers. Elle va donc rester dans cette région au climat tempéré qui lui rappelait, disait-elle, l'Afrique du Sud. Elle y restera jusqu'en 1985, donc un an après la mort de Sékou Touré. Et c'est François-Xavier Freland qui nous emmène sur les traces de la chanteuse.
Si vous tuez la clé ?
Oh, oui.
Myriam Makeba, on est exactement au niveau de la cuisine. Donc comme vous voyez, il y a quelques objets, il y a des cuisinières qu'elle a utilisées et même quelques vaisselles. Donc là, je vous amène à voir le hall ou le salon, là où elle a résidé durant des années. Et ça, c'est une de ses photos. Et ça, c'était le téléphone qu'elle utilisait. Ouais.
Il marche encore ?
Bon, si on essaie de le régler, ça peut marcher. Hein.
Fabienne, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Tibouba, le guide touristique de Dalaba. C'est un peu lui le vrai gardien de l'ancienne maison. Alors, la case Makeba, hein, comme on la surnomme, est une villa ronde, donc, hein, en forme de case, avec un grand jardin autour, de magnifiques arbres. Et à l'intérieur, comme l'explique Thibault, la plupart des meubles et la décoration a été réalisée par les artisans de la région. Par exemple, dans le salon, le magnifique plafond en paille tressée est une des traditions du Fouta. Et on retrouve dans les tiroirs, hein, un peu tous ces objets personnels, des disques, des livres politiques dans la bibliothèque, et puis toute sa correspondance avec Sékou Touré notamment, un peu comme si elle venait de quitter les lieux. On l'écoute dans ce documentaire diffusé en 1981 par la télévision suisse, parler donc de cette maison de Dalaba.
Dalaba me rappelle beaucoup d'endroits en Afrique du Sud et même au Swaziland où ma mère est née.
C'est évidemment très émouvant de l'entendre parler. Elle s'était très bien intégrée à Dalaba. Myriam Makeba parlait les langues locales. Elle était très proche des gens, des habitants, qu'elle aidait d'ailleurs matériellement. Comme nous le confirme le préfet de Dalaba, Alpha Boubacarba, deux visites ce jour-là à la case Makeba avec une délégation de l'ONU.
On l'appelait la citoyenne de Dalaba. Elle se confondait à la population. Elle venait assister à tout le monde et puis elle assistait les cas sociaux. Et quand il y avait baptême, une cérémonie religieuse, elle venait assister. Et surtout, elle faisait assez de dons à l'hôpital préfectoral de Dalaba.
Et alors François-Xavier, Myriam Makeba a vécu donc presque 16 ans en exil, en pleine époque Sékou Touré, ils étaient très proches. Et ce, malgré les disparitions d'opposants politiques qui étaient parfaitement connus.
Oui, cette grande chanteuse féministe, socialiste, dénonçait l'apartheid en Afrique du Sud, le racisme anti-noir aussi aux États-Unis. Mais d'un autre côté, elle a vécu presque paisiblement hein, en Guinée, alors même qu'on savait la réalité effroyable du régime Sékou Touré. Alors il faut remettre ça dans le contexte, on était en pleine guerre froide, c'était les pays non alignés, pro-soviétiques, contre l'Occident, la France, contre la colonisation. Et dans les années 70, la case Makeba deviendra même un lieu de rencontre, hein, où politiques et artistes d'Afrique et d'ailleurs viendront séjourner, comme le président révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah. Prise dans ce tourbillon, elle a joué dans les grands orchestres d'État guinéen et participé donc directement à la propagande du régime. Je vous propose d'écouter Alfonso Castellanos. Il est chercheur en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS, spécialiste des musiques ouest-africaines.
Ahmed Sékou Touré a eu comme projet très clair de canaliser l'art dans son projet vraiment révolutionnaire. Donc mettre en relief une authenticité culturelle hein, pour affirmer des valeurs typiquement africaines. Et en Makeba, quand elle arrive, elle retrouve vraiment cette effervescence déjà au niveau musical et créatif, mais aussi tout ce discours révolutionnaire avec cette orientation très très forte qui est de mettre en relief l'authenticité africaine.
On l'a compris, Fabienne, on était dans un contexte très politisé. Néanmoins, avec 6 albums et une 30aine de titres à son actif en Guinée, elle s'est d'abord inspirée de la tradition ouest-africaine pour faire évoluer sa musique. Nous écoutons Bintou Silla du label ouest-africain Silla Tricor.
C'est quand même un personnage de l'exil, Makeba, donc je pense que dans ses compositions et dans sa musique, on ressent en fait ce spleen, ce truc très nostalgique de l'exil, de quelqu'un qui est loin de son pays. Elle a pris le temps de chanter dans des langues locales en fait, en malinké, en peul, en soussou. Comme elle était considérée comme guinéenne au final, donc le côté blues mandingue ou ouest-africain, c'est un truc qu'elle a dû sans doute trouver. Familier en fait.
François-Xavier, cette maison en Guinée, elle a beaucoup compté dans la carrière, dans la vie même de Myriam Makeba. Malheureusement, ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi, c'est qu'elle est à l'abandon.
Oui, aux grandes dames du guide bienveillant Tibouba qui garde précieusement les clés de la maison. Alors pour une histoire de succession, on ne sait plus très bien à qui appartient cette villa. En attendant, Tibou lutte pour éviter qu'elle ne s'écroule et espère un jour la voir devenir un grand centre culturel Makeba avec résidence d'artistes.
C'est téléphoné d'entendre ça quand on parle de Myriam Makeba, mais c'est pas grave, on est quand même contente de l'entendre. Merci beaucoup à François-Xavier Froland pour ce joli reportage. Et le bruit du monde, ça continue avec vous, Amélie Perrier. À l'heure où l'on compte les féminicides en France, d'ailleurs on le rappelle, 107 femmes tuées par leur compagnon ou leur ex depuis le début de l'année selon les associations, au Maroc, certains hommes se permettent de dire qu'ils frappent leur épouse.
Et là c'est une émission de télé de divertissement, a priori Cote B Tonight sur Shada TV. Elle vient d'être sanctionnée, cette émission, par le CSA marocain. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle n'a pas du tout apprécié ce passage de l'interview du chanteur Adil El Miloudi.
Il a sorti une chanson misogyne un peu, où il dit, en fait, et là il nous dit aujourd'hui, pour être un homme, il faut frapper sa femme.
Si, parce que la France, il est...
Voilà, vous avez bien entendu, les rires.
Et en plus, ça rigole donc.
Ouais, les rires, les applaudissements du public quand le présentateur traduit le chanteur et la mise au point pas vraiment convaincante, Ensuite, rire complice de l'acteur Sami Nasseri, lui aussi invité, sur le plateau. Et le chanteur d'insister. Au Maroc, dit-il après en arabe, c'est normal, chacun peut faire ce qu'il veut de sa femme, la frapper, la tuer. Je ferme les guillemets ici. Condamnation sans appel de la Haute Autorité, l'émission est suspendue pendant 3 semaines, mais aucune poursuite judiciaire contre Miloudi ou contre Sami Nasseri, apparemment. Sur la même longueur d'onde que le chanteur. Le groupe de médias a déjà été mis à l'amende sur sa radio Shada FM. Un chroniqueur qui se présentait alors comme un guérisseur avait dit que, je cite, « les femmes les plus exposées au cancer de l'utérus sont celles qui ont recours à la prostitution ou à l'adultère ». Je ferme encore les guillemets ici. Être marocaine en 2019.
Bien. On vous parlait hier de l'acteur russe, Amélie, Pavel Oustinov. Il a été arrêté pendant une manifestation, il a été condamné.
Et de la mobilisation aussi de nombreux artistes. Et bien apparemment, cela paie. Son jugement à 3 ans et demi de prison pourrait être revu. Le parquet appelle à libérer l'acteur aujourd'hui. Le tribunal de Moscou annonce qu'il se prononcera demain sur une requête des procureurs. Oustinov pourrait être libéré de sa détention cette semaine. C'est à suivre.
L'organisation Human Rights Watch s'inquiète de la répression des opposants au Zimbabwe.
Elle nous raconte aujourd'hui le cas d'un médecin, le docteur Peter Magombeyi. Il dirige l'association des médecins hospitaliers du Zimbabwe. Il s'était fait le porte-voix de ses confrères qui réclamaient des hausses de salaire. Un médecin gagne moins de 100 dollars par mois au Zimbabwe, pas assez pour payer son loyer, sa nourriture et ses transports, disent les protestataires. Depuis 5 jours, le docteur Magombeyi a disparu et selon un message WhatsApp qu'il a réussi à envoyer, apparemment 3 hommes l'ont enlevé à son domicile à Harare, la capitale. Depuis, aucune nouvelle, ses collègues manifeste. Alors ici, c'est le docteur David Chimuka, chirurgien cardiaque au micro d'Al Jazeera. Il dit, le docteur Peter Magombeyi a disparu depuis samedi. Nous sommes très inquiets pour lui. C'est pourquoi nous demandons son retour inconditionnel auprès de sa famille. En attendant, nous exerçons notre droit de retrait. Les médecins se sont mis en grève. Cet enlèvement ne serait pas un cas isolé. De nombreux militants des droits de l'homme et des opposants ont disparu ces derniers mois. À un niveau alarmant, dit Human Rights Watch, elle en recense une cinquantaine depuis le début de l'année. Un porte-parole du président Mnangagwa qualifie l'enlèvement de propagande organisée par l'opposition. Des ONG dénoncent, elles, des pratiques du pouvoir pire que sous l'ère Mugabe. Les violations des droits de l'homme se sont multipliées selon ces organisations.
On termine notre tour du monde en Indonésie et c'est pas plus gai. Le pays s'apprête à promulguer un nouveau code pénal qui est très réactionnaire.
La loi pourrait interdire à l'avenir les couples en dehors du mariage et les relations sexuelles extra-conjugales, ainsi que l'avortement. En fait, le Parlement a l'intention de se débarrasser de tout l'héritage législatif de l'époque coloniale sous l'impulsion de son président.
Nous dirigerons et protégerons tous les Indonésiens et nous travaillerons dur pour accomplir ce que la société veut.
Voilà, Joko Widodo réélu en mai dernier pour un second mandat. Mais ce nouveau code pénal est un désastre pour les femmes, pour les homosexuels, pour les minorités religieuses et de genre et pour tous les Indonésiens au final, regrettent les associations. Rappelons que c'est en Indonésie que l'on compte le plus de musulmans au monde. La criminalisation de l'adultère et des prostituées fait polémique, tout comme la censure sur les informations sur la contraception. Un code pénal à l'image du conservatisme religieux de plus en plus fort dans le pays.
Amélie Perrier avec le bruit du monde en bandoulière. Voici Curtis Mayfield sur France Inter avant de retourner en Europe. Ghetto Charlie.
Never smile. Broken home, father gone, mama tired, so is all alone. Kinda sad, kinda mad. Little child, thinking he's been had, but I can just hear him in the back of his mind saying, didn't have to be here. You didn't have to love for me.
Curtis Mayfield avant Curtis Mayfield, Ghetto Child sur France Inter.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union.
Génial.
Un jour dans le monde.
L'Europe, on l'aime ou on la quitte avec Angélique Bouin qu'on retrouve avec nous depuis Bruxelles tous les jeudis. Angélique, ce soir, on va évoquer un dossier dans lequel l'Union européenne a voulu bien faire et a failli se prendre carrément les pieds dans le tapis.
Eh oui, c'est comme cela qu'un parlementaire m'a résumé cette affaire hier, qui était à l'agenda cet après-midi des eurodéputés réunis, vous le savez, en session à Strasbourg. C'est le dossier des pompiers. Ils sont 3,5 millions en Europe et parmi eux, il y a énormément de volontaires. En France, par exemple, c'est 80% des troupes. En Allemagne ou en Autriche, le pourcentage est encore plus élevé. Or, leur statut est menacé par un arrêt de la Cour de justice européenne qui date de l'an dernier. Un arrêt qui a qualifié de temps de travail le temps d'astreinte d'un sapeur-pompier belge. En clair, c'est garde à domicile. S'il y avait un recours de ce type devant un tribunal national, cet arrêt pourrait faire jurisprudence, explique l'eurodéputé Les Républicains Anne Sander, pour qui c'est un effet collatéral négatif de la directive temps de travail, directive dont l'idée était plutôt de protéger les travailleurs. Et voilà comment une loi protectrice risque de se retourner contre les citoyens. C'est ce qu'ont dénoncé cet après-midi dans l'hémicycle des parlementaires français, membres du PPE. Ils demandent que soit clarifiée la législation européenne, mais la réponse de la Commission risque de laisser ces élus mobilisés sur leur faim. Elle estime en effet que cette directive laisse suffisamment de flexibilité aux États membres pour s'adapter. Mon petit doigt me dit, Fabienne, qu'on reparlera de ce dossier.
On reparlerait à votre petit doigt pour nous en parler. Les féminicides, Angélique, le terme est également à la une des médias belges.
Oui, le débat en France a en quelque sorte relancé ici la mobilisation de certaines associations féministes, des associations qui n'arrivent même pas en Belgique à récupérer des statistiques précises sur le sujet et elles s'en plaignent. Il existe bien un institut public fédéral pour l'égalité des femmes et des hommes. Vous noterez que la femme passe d'abord. Mais sa dernière étude disponible sur son site, figurez-vous, date de 2010, hein, quasiment 10 ans. Ce qui est intéressant à noter aussi dans ce pays, c'est que les associations ont essayé depuis 2 ans de sensibiliser et de travailler avec certains médias pour que ce terme de féminicide soit employé. Après la mort tragique l'été dernier d'une femme et de sa maman tuée par son conjoint, le bourgmestre du lieu avait évoqué une affaire privée, ce qui avait provoqué un débat. Il faut employer le bon terme, ce ne sont ni des affaires privées ni des affaires familiales, mais bien des meurtres de femmes parce que ce sont des femmes, rappelle l'animatrice de la plateforme belge Stop Féminicide. En Belgique, 70% des affaires de violence conjugale sont classées sans suite et il y a 11% de condamnations, selon Céline Caudron, qui porte ce combat. Et puis, il y a 2 lois hein, peu appliquées, selon elle. L'une qui permet d'interdire à un conjoint violent de retourner chez lui pendant 10 jours, hein, le temps de permettre à la victime de se remettre, de s'organiser, de trouver un avocat. C'est quand même assez court. Hein. Et puis, une loi qui permet d'attribuer prioritairement le domicile à la victime en cas de litige.
Voilà, quand les Belges regardent chez nous, donc, les Néerlandais, Angélique, c'est pas nouveau, manque de main-d'œuvre. Et certaines entreprises font donc du recrutement les yeux fermés. Ça veut dire quoi?
Eh bien, c'est une méthode américaine, l'open hiring, qui est en train d'essaimer chez nos voisins néerlandais. Cela consiste à recruter quelqu'un sans lui demander son CV, sans entretien d'embauche, rien. Et puis, c'est le premier arrivé qui est le premier servi. L'idée, c'est aussi, évidemment, de donner des chances, leur chance à des personnes qui sont laissées pour compte, chômeurs, ex-détenus, seniors. C'est ce que raconte le correspondant des Échos aux Pays-Bas, qui a enquêté sur le sujet, avec un exemple, une entreprise qui recrute comme cela des magasiniers. Ça permet de trouver des gens motivés, qui sont reconnaissants, qu'on leur donne une chance, explique la patronne de l'entreprise. Et à son arrivée, eh bien, le postulant est directement pris en charge par un collègue et commence à travailler. Alors bien entendu, ça concerne des tâches assez simples, mais il existe, nous apprend cet article, un cabinet spécialisé aux Pays-Bas dans la réinsertion professionnelle et qui a pour mission actuellement eh bien, de développer cette pratique.
Le tour de l'Europe grâce à Angélique Bouin. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Hop, drop, si je puis me permettre, hein, Jean-Marc Four et le monde à l'envers. La Coupe du Monde de rugby débute donc demain après-midi, ça se passe au Japon. Le match d'ouverture, ce sera Japon-Russie. La France entre en lice après-demain, ce sera contre l'Argentine. Mais la forte couverture médiatique qui s'annonce, Jean-Marc, ne doit pas cacher l'essentiel. Le rugby a beau se revendiquer mondial, il en est encore très loin et c'est votre monde à l'envers.
Disons que la devanture est séduisante, mais en magasin, les rayons ne sont pas très fournis. Commençons par les apparences. La Fédération Internationale a pris grand soin de se rebaptiser World Rugby, ça en jette. Pour la première fois, la compétition a lieu en Asie, donc le symbole est fort. C'est vrai, le rugby est en essor au Japon, hein, désormais 9e pays au monde par le nombre de licenciés. Et qui plus est, il y a de grands projets de développement du rugby en Chine à partir de l'an prochain avec le soutien du géant du commerce en ligne Alibaba. Et puis dans les 20 équipes qualifiées pour la compétition, il y a quelques petits pays comme la Namibie ou l'Uruguay. Et si j'étais le chargé de communication de World Rugby, j'ajouterais que la pratique est en essor chez les femmes. Le nombre de pratiquantes est estimé à plus de 2 millions dans le monde. Et le rugby à 7, plus facile à comprendre pour un néophyte, a fait son apparition aux Jeux Olympiques il y a 3 ans. Là aussi, ça a permis au ballon ovale de conquérir de nouvelles terres, par exemple les Pays-Bas ou la Suède. Ajoutons donc en effet l'engouement médiatique dans certains pays comme la France et on peut avoir l'illusion d'un phénomène mondial. Quel essai magnifique! Ne tombons pas dans le panneau, c'est une illusion, essai non transformé.
Donc le rugby, c'est un sport mineur au niveau mondial, en gros.
Mineur, c'est peut-être un peu excessif, mais certainement pas majeur. Vous vous souvenez peut-être de cette pub pour un soda, il a le goût de l'alcool, il a l'apparence de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool, et c'est un peu pareil. On peut examiner quelques chiffres. Le premier, c'est le nombre de fédérations nationales membres de World Rugby, officiellement 105. Bon, ça fait chic. Sauf que pour les autres grands sports de ballon, le football, le basketball, le volleyball, c'est le double de 110, de 120. En plus, ces dernières années, ça stagne, seulement 2 nouveaux adhérents entre 2012 et 2018. Et puis surtout, derrière ce joli chiffre de 105 fédérations, beaucoup ne possèdent qu'une poignée de pratiquants. En fait, si on met le Japon à part, il n'y a pas vraiment de nouveaux venus dans l'élite. On tourne en rond. Et si on grossit encore la loupe, je vous rappelle que seulement 4 nations ont remporté la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, Angleterre. C'est comme si le mondial de foot n'avait jamais été remporté que, mettons, par le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, point barre. En fait, le rugby reste une affaire britannique, une création britannique diffusée dans le Commonwealth britannique, imaginée au départ comme un vecteur de diffusion des valeurs de l'Empire britannique. Et ça n'a pas changé tant que ça. Même en Argentine, où les Anglais pourtant ne sont pas très appréciés, le rugby est arrivé, je vous le donne en mille, par les Britanniques. Ajoutons que même dans les pays où les pratiqué fortement, le rugby ne l'est pas de façon homogène dans les populations, contrairement au foot par exemple. En Angleterre, c'est plutôt un sport universitaire, en France, c'est d'abord un sport du Grand Sud-Ouest, en Afrique du Sud, c'est d'abord le sport des Blancs, même si ça a évolué un peu ces dernières années.
Mais alors, il y a quand même une mondialisation économique du rugby, non ?
Oui, c'est vrai, professionnalisation des joueurs, projet de grande ligue mondiale des clubs, bénéfice important lors de la dernière Coupe du Monde il y a 4 ans, mais là encore, il y a des bémols, il y en a au moins deux. Le premier, c'est qu'on est vraiment en présence d'une mondialisation libérale qui profite aux riches. Par exemple, il y a 4 ans, les bénéfices nets de l'épreuve ont été pour plus de la moitié automatiquement reversés aux 10 premiers du classement mondial. Tranquille. D'ailleurs, le système de qualification pour la Coupe du Monde, il vaut son pesant de cacahuètes. Les 12 meilleures nations mondiales sont automatiquement qualifiées. Il ne reste que 8 places à se partager pour tout le reste de la planète. Aucun sport collectif majeur ne pratique comme ça. La gestion de World Rugby, ce n'est pas vraiment un modèle de démocratie et d'équité. Dans la prise de décision, les petits pays comptent grosso modo pour des prunes. Le second bémol, c'est là encore d'examiner le volume global du business. On est quand même loin des sommes générées par le football ou le basket. Prenons par exemple les recettes dérivées de la Coupe du Monde, droits télé, sponsoring, etc. Un peu moins $1 milliard, c'est 6 fois moins que le mondial de foot. Zéro patate par exemple en Chine ou en Inde. En fait, pour donner une comparaison, le rugby au niveau mondial joue plutôt dans la même division que le cricket.
Voilà. Ou le baseball.
Le baseball.
On en reparlera. Allez, Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. Juste avant, il y a bien sûr le journal de Sébastien Paour. Restez avec nous.